La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et qui est aussi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, tous, chacun, nous sommes ainsi le bien-aimé de Dieu. Nous chantons ensemble la louange à Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret qui est au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Oui, bénissons le nom de l'Éternel, bénissons-le, serviteur de l'Éternel, nous qui veillons dans la maison de l'Éternel à la porte de la maison de notre Dieu. Bénissons la bonté, l'amour de l'Éternel, célébrons la douceur de son nom, c'est toi que l'Éternel a choisi, c'est toi dont il a fait son bien. Je vous propose de chanter maintenant le psaume 72 dans le psautier français, les trois premières strophes de ce psaume qui nous permet d'accueillir le Messie, le Prince de la paix, que nous pouvons être aussi dans une certaine mesure. Bénissons Dieu, revêts le Seigneur de ta justice. Les trois premières strophes de ce cantique. Vous pouvez prendre place. Écoutons ensemble ce que l'apôtre Paul nous propose de chercher à vivre à la suite de notre Dieu. Voici la voie par excellence, nous dit Paul. L'amour prend patience, l'amour rend service, L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la vérité, dans la fidélité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Et maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Poursuivez donc l'amour. Et face à cet idéal infini de l'amour de Dieu, nous reconnaissons bien sûr nos limites et nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide en suivant du cœur ce psaume. Écoute Éternel, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, ô Éternel, que je cherche, ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère, tu es et tu seras toujours mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Montre-moi ton chemin, ô Éternel. Conduis-moi par des routes sûres malgré le mal, la faiblesse, la douleur qui me guette. Ne me livre pas à la merci de l'adversité. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. C'est lui-même qui me dit « Espère l'Éternel, sois fort et prends courage, espère l'Éternel. » Mais voici ce que déclare l'Éternel à chacune et chacun d'entre nous. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils, son unique, dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Dieu se penche vers nous et nous dit « Lève-toi et va, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Et je vous propose de vous unir par la foi à cette simple déclaration de croyance. Je crois en Dieu le Père, puissant Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est tendresse et fidélité. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, il est la fidélité et la vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avions un peu d'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Oui, Seigneur, augmente jour après jour la confiance que nous avons en toi. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Parfois, on entend dire dans les églises chrétiennes que Jésus serait Dieu ou Dieu est homme. Parfois, on entend des prières à Dieu. Et effectivement, ce n'est pas sans poser des difficultés, bien sûr, dans le dialogue avec nos frères et sœurs juifs, musulmans, mais même pour notre cheminement spirituel. Alors oui, parmi les théologiens chrétiens, un courant majoritaire n'a pas forcément plus raison qu'un courant minoritaire, mais enfin bon. Un courant majoritaire donc affirme depuis le 4e, 5e siècle que Jésus est Dieu et homme, unis en une seule personne. Dans un certain sens, ce n'est pas faux. Alors je vais vous lire un texte de l'Évangile, dans l'Évangile selon Jean, où Jésus est accusé de se faire Dieu. Alors Jésus, on va le voir, insiste beaucoup sur le fait qu'il n'est pas Dieu, mais en même temps il dit que le Père est en lui, que lui est dans le Père, qu'ils sont un, et donc la question est quand même un peu complexe. Et puis Jésus cite un psaume de la Bible, psaume 82, qui affirme que nous sommes tous des dieux, dans un certain sens, des enfants du Très-Haut, et que nous sommes pourtant des enfants mortels. C'est donc à la fois pas faux de dire que Jésus est à la fois Dieu et homme, dans un certain sens, que nous sommes à la fois des dieux et des hommes, dans un certain sens, mais tout dépend comment on le comprend, et ce que l'on fait de ce concept, c'est à manier, à mon avis, avec grande précaution. Car cette question n'est pas simplement de la théologie abstraite. Ce qui est formidablement amusant, je reconnais, de discuter sur les choses complexes et très abstraites, mais c'est une réalité assez importante pour notre foi et pour notre cheminement. Je vous propose donc d'aller chercher les pièces du dossier au chapitre 10 de l'Évangile selon Jean, à partir du verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver, un peu comme aujourd'hui en fait. Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Mais jusqu'à quand nous tiendras-tu notre âme en suspens ? Si toi tu es le Christ, eh bien dis-le nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne mourront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes unis, nous sommes un. » Les Juifs ramassèrent alors de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces bonnes œuvres me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre Bible, « J'ai dit, vous êtes des dieux. » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être abolie, à celui que le Père a sanctifié, que le Père a envoyé dans le monde, vous dites, « Tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même vous ne croiriez pas, eh bien croyez à ses œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que moi, je suis dans le Père. » Ils cherchèrent encore à l'arrêter, mais il s'échappa de leurs mains. Et donc je vous propose d'aller chercher ce psaume que Jésus cite dans la Bible, psaume 82, psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Jusque quand jugerez-vous avec injustice, vous autres, et aurez-vous égard à la personne des méchants? Faites plutôt droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux malheureux et aux pauvres. Libérez le faible et le pauvre, arrachez-le à la main du méchant. Mais ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre chancellent. J'avais dit, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme les humains, vous tomberez comme des princes ordinaires. Lève-toi, ô Dieu, et gouverne la terre, car tu as un héritage dans toutes les nations. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose, pour commencer à laisser résonner ces textes en nous-mêmes, de chanter le psaume 116 dans le psautier français, 116b, « J'aime mon Dieu, car il entend ma voix », les strophes 1, 2 et 4 du psaume 116b. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages anciens qui sont dans la Bible, nous puissions chacun découvrir ce que tu veux nous apporter aujourd'hui, en particulier dans le secret de notre être intérieur. Tu nous as dit que tu nous donnerais ton esprit pour que nous soyons prophètes. C'est notre espérance, afin qu'à l'occasion de ce culte, mais aussi de notre prière, nous recevions une nourriture pour notre foi, une ouverture pour notre espérance et un amour vrai pour animer notre vie. Les théologiens traditionalistes accusent donc Jésus, « Toi qui es homme, tu te fais Dieu ». Jésus répond qu'il ne s'est jamais prétendu être Dieu, mais fils de Dieu, ce qui n'est vraiment pas la même chose, bien sûr. Mais Jésus dit aussi quelque chose d'important, il dit qu'il aurait très bien pu se présenter comme Dieu, sans blasphémer contre la Bible elle-même, puisque ce psaume que nous avons entendu nous appelle Dieu, nous dit que nous sommes des dieux, chacun de nous, sans distinction, sans condition. Et donc lui aussi, dans un certain sens. Jésus tenait donc là un argument imparable pour se présenter comme Dieu s'il avait voulu. Bon, mais il ne le fait pas. Il ne le fait même pas du tout, du tout, car il insiste une demi-douzaine de fois dans ce texte pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu et bien faire la distinction entre lui, Jésus, et Dieu. Et cela commence par le nom qu'il utilise ici pour parler de Dieu, contrairement à ses opposants, qui appelle Dieu, Dieu, Jésus l'appelle mon Père. Et Jésus montre ainsi clairement que oui, Dieu n'est pas sans rapport avec ce qu'il est, parce qu'entre le Fils et son Père, il y a des traits de ressemblance, il y a souvent le Fils reprend le même métier que le Père, hérite de quelque chose du Père, mais il y a une différence quand même radicale, bien sûr. Le Père est la source, et Jésus montre bien que lui, il est un fruit de cette source. Et Jésus insiste, c'est le Père qui lui donne la vie, c'est le Père qui le sanctifie, c'est-à-dire qui lui donne une place, une dignité, un rôle en ce monde. C'est Dieu, nous dit Jésus, qui lui donne la force de parler et d'agir, qui lui donne une façon d'être. Et ce qu'il y a de meilleur dans ses actes, nous dit Jésus, ne vient pas de lui-même, cela ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Alors est-ce que Jésus serait Dieu un peu quand même ? Eh bien, c'est compliqué, mais à la base, il y a quand même une expérience, celle de la présence de Dieu. Dieu est en nous, comme le dit Jésus. De fait, nous n'avons aucune chance de rencontrer Dieu dans la rue et de le rencontrer, de se cogner contre lui comme on peut se cogner contre un poteau de signalisation. Car il n'existe pas comme un corps matériel, finalement. Alors dans le monde, nous voyons plein de belles choses que nous pouvons raisonnablement considérer comme des traces de l'action de Dieu. Comme on imagine le geste de l'ébéniste en voyant les sculptures qui sont, par exemple, sur les boiseries de cet oratoire. Mais ce n'est pas Dieu que nous voyons dans la nature, bien entendu. Ça peut être le résultat de son action, ça peut être un mouvement ou une nouveauté, que sais-je. Dieu, quand il nous arrive de sentir sa présence, il se manifeste comme une expérience intérieure qui nous mène un peu plus loin que notre horizon. C'est donc souvent après coup que nous pouvons dire « oui, là, il pouvait y avoir quelque chose de l'ordre de Dieu ». Alors ça peut être aussi dans une relation, quand une relation que nous avons avec une autre personne fait que nous sentons quelque chose de cet ordre, d'une nouveauté, d'un palier supplémentaire. Peut-être grâce à quelques traits de personnalité ou d'action d'une personne que nous côtoyons, si on l'aime assez pour discerner voilà ce qui vient de Dieu, ou discerner quelque chose de plus grand que l'humain dans ce qui se passe quand quelques personnes sont rassemblées. C'est donc bien à l'intérieur de l'humain que nous expérimentons Dieu en réalité, jamais à l'extérieur. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas autrement ou ailleurs que dans l'humain, mais en ce qui nous concerne, c'est toujours au creux de la personne humaine, au creux de relations humaines vraies, que nous pouvons avoir une relation à Dieu, que nous pouvons sentir la présence de Dieu. Et donc ce n'est pas faux, et c'est même important de dire qu'il y a du Dieu dans l'homme. C'est ça finalement qu'on nous dit quand Dieu donne son esprit. Car c'est bien là, à l'intérieur de l'humain, que nous pouvons le chercher, que nous pouvons l'attendre, l'espérer, et que nous pouvons aussi l'explorer, ce Dieu que nous avons bien du mal à connaître. Et c'est évidemment fondamental pour nous chrétiens de le reconnaître, en particulier Dieu en Jésus. Je ne suis pas certain d'ailleurs que Dieu soit plus présent en Jésus qu'en nous. En effet, dans le passage que nous lisons ce matin, il ne le prétend pas, Jésus, que Dieu serait plus présent en lui qu'en nous. Bien au contraire, il cite ce verset de la Bible, ce psaume qui nous appelle des dieux. Et Jésus explique que c'est un don de Dieu que nous puissions être appelés ainsi, indépendamment de nos qualités et de nos mérites personnels. Et donc, pas plus pour lui que pour n'importe qui d'autre. Mais ce que dit Jésus de lui-même, c'est qu'il s'est senti personnellement choisi, c'est-à-dire sanctifié, choisi par Dieu pour une mission spéciale, être l'envoyé dans le monde, l'apôtre, qui manifeste Dieu. Donc c'est une mission particulière, certes. Et c'est vrai que Dieu est présent en Jésus, comme il le dit ici, c'est vrai qu'il y a une unité profonde entre Dieu et lui. Dans la personnalité de Jésus, il existe, on peut le dire, des signes de ce qu'est Dieu et de ses œuvres. Mais n'exagérons pas quand même. Ce sont, comme le dit ici Jésus, quelques-unes de ses œuvres bonnes qui manifestent Dieu dans le monde. Une autre partie de ce que fait Jésus ne manifeste que sa seule humanité, bien sûr. Voir notre animalité commune à tous, par exemple, quand il a dû lui arriver de se gratter le sourcil, ce n'était pas un robot. Ou bien quand il mange, digère et va ensuite. Excusez-moi du peu, mais c'est Jésus lui-même qui le dit, quand il va ensuite dans un lieu secret. Eh bien, il y a du Dieu en lui, mais il est aussi un humain, évidemment. Alors faut-il passer de Jésus est fils de Dieu à Jésus est Dieu ? Ou Dieu et homme. Eh bien, Jésus lui-même, donc, se présente comme fils de Dieu. Il refuse de se dire Dieu, avec une majuscule. Il refuse même de se dire Dieu, avec une minuscule, comme dans le psaume 82. Et pourtant, c'est ce qu'affirmeront hardiment certains conciles quelques siècles plus tard. Alors, dire que Jésus est Dieu, c'est pas totalement faux, comme j'ai essayé de le dire. Mais le problème, c'est que ce n'est pas dénué de risques sur le plan spirituel et existentiel. En considérant que Jésus est Dieu, d'une certaine façon, nous divinisons Jésus. Ce faisant, nous divinisons quand même un peu l'homme Jésus, l'homme qui se gratte le sourcil, qui mange et qui digère. Je passe sur le reste. Et comme Jésus est un modèle pour nous, en divinisant Jésus, c'est aussi nous-mêmes que nous risquons de trop diviniser. Sans le vouloir, bien sûr. Ou même plus ou moins inconsciemment, d'une manière subliminale. Mais nous sommes là sur une pente formidablement glissante. Comme le dit très justement ce génial conte théologique d'Adam et Ève au pays des serpents qui parlent et des arbres qui se mangent. Or, ce récit est écrit pour nous dire que ce n'est pas génial de se prendre pour Dieu, que cela trouble notre relation à Dieu, que cela aussi nous rend l'existence des autres humains insupportable et que nous avons envie à ce moment-là de nous exclamer « Mais comment les autres ne sont pas tous à mes pieds pour m'adorer à moi qui suis Dieu ? Mais enfin, quel manque de savoir-vivre !» Donc, à mon avis, alors vous pouvez évidemment être d'un autre avis, c'est finalement comme ça que ça marche dans cette Église, cela vaut mieux de s'en tenir à ce que dit Jésus sur lui-même et de le considérer seulement, si je puis dire, comme fils de Dieu ou comme l'envoyé de Dieu dans le monde. C'est déjà très bien. Alors, est-ce que c'est possible de prier Jésus ? Alors, c'est souvent ce qui finit par arriver quand on met l'accent sur la divinité de Jésus, en fait. À mon avis, le danger est encore plus grand. En même temps, je comprends qu'on prie Jésus, car Dieu est particulièrement visible en Jésus. Et Jésus est plus concret, plus compréhensible que Dieu. À vrai dire, ce n'est pas facile de prier Dieu authentiquement. On ne le voit pas, on ne sait pas très bien qui il est. Il est même difficile d'imaginer ce que peut bien être Dieu, source de tout, au-delà de tout. On ne sait même pas s'il existe, ou plutôt, on ne sait pas comment il peut exister, comment il existe, lui qui est unique en son genre. Il est donc naturel d'avoir envie de prier du plus concret. Et Jésus est effectivement un bien meilleur candidat quand même que le premier veau d'or venu. Alors je comprends donc que l'on prie Jésus, c'est certainement mieux que de ne pas prier, et cela peut, je le reconnais, apporter des bénéfices positifs, bien réels. En effet, en priant Dieu, c'est Jésus qu'on prie alors, c'est Dieu qu'on prie alors en Jésus. Ce Dieu qui se manifeste en lui par des actes d'amour, de générosité, de respect, de pardon, de créativité, de réparation du monde. Et donc, oui, c'est en Jésus, c'est on peut sentir que Dieu est source de pardon et c'est cela qu'on peut prier, c'est vers cela qu'on peut se tourner en Jésus. On peut se tourner vers ce qui nous accompagne et nous relève en Dieu, c'est ce qu'on voit en Jésus. Ce Dieu qui nous engueule un peu aussi, comme Jésus le fait, mais pour nous stimuler, pour nous aiguillonner, pour nous remettre en route. Oui, tout cela dans un sens, c'est bien Dieu. Dieu qui est en Jésus, comme il vient en nous, nous dit Jésus, car c'est la promesse qui est faite à la fin de cet évangile selon Jean. Alors effectivement, nous sommes façonnés par l'idéal que nous contemplons dans notre prière. Et donc prier Jésus, c'est se placer face à une bien belle conception de l'existence, bien belle conception de Dieu, de la foi, de la justice, celle de l'évangile. Et c'est excellent dans un sens. Alors je comprends que l'on prie Jésus, mais en même temps il y a un risque. C'est justement d'avoir une prière trop horizontale, une prière trop facile, une prière trop confortable. Une prière et une conception de Dieu qui manquent précisément de cette altérité, ce quelque chose d'incompréhensible qu'est Dieu. Cette altérité qui nous aide à sortir de nous-mêmes justement, sortir comme un grain de blé jeté en terre qui, dans des conditions suffisamment bonnes, peut sortir de terre, devenir vivant et s'élever hors de la terre, hors sol. Alors d'accord, c'est bien au cœur de l'homme que Dieu s'incarne comme il le fait en Jésus-Christ. Mais justement, ce qui nous tire vers le haut, c'est cet appel, cet ensemencement venu directement de Dieu. Ensemencement donné à chacun d'entre nous. C'est cette force d'évolution qu'est Dieu, c'est lui le créateur de l'univers, personne d'autre. Et donc, la réussite de l'incarnation de la parole de Dieu en Jésus-Christ, Ça nous encourage à vivre à notre tour cette ouverture à l'esprit, cette ouverture à l'appel singulier que Jésus a pour chacun, chacune d'entre nous. Mais donc le Christ est comme le doigt qui montre la lune. Il faut suivre de notre regard ce doigt qu'est le Christ, le suivre de notre espérance et de notre prière. Nous pouvons donc prier Dieu au nom de Jésus-Christ, en communion, en méditant Jésus-Christ si on veut. Mais il ne s'agit donc pas pour nous d'adorer le Christ, ni même Dieu en Christ. Mais reconnaissant Dieu en Christ, reconnaissant cette communion finalement, nous pouvons saisir que Dieu nous a déjà, nous aussi, sanctifiés, comme il a appelé Jésus. Mais bien sûr, nous avons une vocation particulière, nous n'avons pas la vocation d'être le Christ. C'est déjà fait. Et donc, nous sommes un autre individu, dans un autre contexte, dans une autre circonstance, avec une autre sensibilité. Nous ne pouvons donc pas adorer cette incarnation de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons vivre la nôtre. Nous pouvons donc méditer le Christ, oh que oui. Mais je pense que c'est Dieu et Dieu seul que nous devons prier, comme Jésus d'ailleurs le dit dans 100% des passages de l'Évangile. C'est Dieu que l'on prie. Nous sommes donc des dieux avec un petit dé, si l'on suit le psaume 82 que Jésus cite. Et être un passage de la Bible cité par Jésus, c'est un peu comme la palme pour un film. C'est quand même quelque chose de remarquable. Donc, Jésus nous dit, il est écrit dans votre Bible, votre loi, vous êtes des dieux. La Bible a ainsi appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et bien là, en fait, Jésus fait une lecture de ce psaume qui est assez fracassante. Selon Jésus, ceux qui peuvent être ainsi appelés des dieux sont ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Or, à qui est adressée la parole de Dieu ? Bien, le psaume nous le dit, elle est adressée à toutes les populations de toutes les nations, de la terre entière. Et effectivement, c'est le principe même de la mission du Christ, que d'adresser la parole de Dieu à toute personne, sans condition, et d'ailleurs c'est ce qu'il fait. Aux riches, aux pauvres, aux trop religieux, à ceux qui ne le sont pas assez, à ceux qui sont juifs, à ceux qui sont païens. C'est le principe même de la mission du Christ, et c'est ce qu'il fait, et c'est d'ailleurs la base même de l'alliance passée par Dieu avec Noé dans le texte que nous a commenté dimanche dernier James. Alors pour Jésus, les personnes qui sont appelées des dieux dans le psaume 82, ce sont ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Jésus ne dit pas que ceux qui sont des dieux seraient ceux qui ont écouté la parole de Dieu et qui la gardent. Non, il dit que c'est ceux à qui Dieu adresse sa parole, qu'ils la reçoivent ou qu'ils ne la reçoivent pas. Alors cette interprétation que Jésus donne de ce psaume fait évidemment bondir les intégristes de l'époque, d'ailleurs ceux de notre époque aussi, et ils saisissent des pierres pour le lapider. Ben pourtant, Jésus a raison, bien sûr, si je puis dire. Dans un sens, nous sommes des dieux avec un D minuscule, comme dans le psaume, par l'appel que Dieu nous a adressé. Bien sûr, nous ne sommes pas dieux avec un grand D. Le Créateur de l'univers est un peu en nous, par cette étincelle, par ce début de liberté que nous avons, ce début de créativité, cette personnalité propre que nous avons. Mais Dieu avec un grand D, c'est infiniment plus que nous. Il peut des choses et il sait des choses que Jésus lui-même ne pouvait pas soupçonner une seconde, comme les confins du temps et de l'espace étaient inconnus de Jésus lui-même, et d'ailleurs il le confesse dans un passage de l'Évangile. Et bien entendu, certaines dimensions de notre être sont soit mortes, en tout cas mortelles, et ne sont donc pas divines. Mais quand même, il y a par nature en tout être humain une part divine, une étincelle de vie qui vient de Dieu et qui nous donne de prendre part à cette éternité qu'est Dieu. Alors prier pour que Dieu préside notre assemblée de petits dieux, c'est ce qui nous est proposé dans ce psaume. Nous sommes des petits dieux, cela ne nous a pas échappé bien sûr, c'est peut-être pourquoi nous adorons n'en faire qu'à notre tête. Et ça tombe bien, parce que le projet de Dieu est justement que nous puissions en faire à notre tête. Mais après nous avoir fait lever la tête hors du sol, justement, après nous avoir donné des yeux pour voir, une intelligence pour comprendre, et une force aussi qui nous permette d'être effectivement aux commandes de notre propre vie, et non seulement pilotés par notre argent, notre ventre ou notre sexe ou notre humeur ou le hasard, l'ambiance du temps. Et sinon, bien sûr, c'est la catastrophe, comme le dit le psaume 82, comme toujours, pour les malheureux, pour les pauvres, pour les petits autour de nous, que nous en profitons pour écrabouiller joyeusement. C'est pourquoi le psaume se termine par cet appel. « Lève-toi, ô Dieu, et gouverne la terre !» Ce verset peut être lu comme un appel pour que notre part divine se lève, ressuscite et gouverne enfin notre dimension terrestre. Oui, c'est une bonne idée. Mais cette prière « Lève-toi, ô Dieu, et gouverne la terre !» préside l'assemblée des dieux. C'est bel et bien surtout à l'Éternel que nous adressons cette prière essentielle pour qu'il continue son œuvre de création sur la terre, que son règne vienne sur la terre comme au ciel, et pourquoi pas aussi qu'il règne sur nous, qu'il préside, comme le dit le psaume, l'assemblée des dieux que nous sommes par sa grâce. Alors non seulement Dieu et Christ seront en nous, mais nous aussi, nous serons en Dieu. Et Dieu ne préside pas en ordonnant, mais en nous éclairant, en nous bonifiant, en nous permettant d'être mieux nous-mêmes. C'est alors que nous serons un peu une bénédiction pour quelques-uns, d'une certaine façon, et en particulier pour les petits qui sont à nos côtés, pour notre joie et pour la leur. Amen. Et je vous propose de chanter dans le petit recueil « Louange et prière » le cantique 315 « L'Éternel seul est ma lumière, ma délivrance et mon appui ». Donc nous reconnaissons le psaume 36 en fait, mais c'est le cantique 315, les trois premières strophes de ce cantique que je vous propose de chanter maintenant. vous pouvez prendre place. Alors, un nouveau bulletin, La Feuille Rose, est sous presse. Si vous recevez d'habitude notre bulletin, eh bien, vous pouvez surveiller donc votre boîte aux lettres. Si vous ne le recevez pas, vous pouvez vous inscrire sur les feuilles à la sortie pour le recevoir chez vous. Sinon, vous pourrez le prendre dans quelques semaines sur la table du culte. Sinon, vous avez aussi le site internet sur lequel il y a pas mal de choses. Et puis les feuilles de prédication qu'on vous donne, James et moi, à la sortie de nos cultes, les prédications que nous faisons. À propos, au comptoir de librairie, il y a un recueil des sermons prêchés à l'oratoire de 40 à 44, « Voix chrétienne dans la tourmente » que nous avons offert dimanche dernier aux catéchumènes. Plusieurs personnes nous ont demandé si elles pouvaient s'en procurer, donc c'est possible, il y en a à la sortie. À la sortie, nous allons pouvoir aussi participer à un repas de paroisse, en fait, où le repas a été préparé par les amis dans Paris B. Chaque année, nous avons la joie d'avoir les amis dans Paris B parmi nous. En Paris B, c'est un quartier de la capitale de Madagascar, en fait. Tatananarive. Et donc, je passe la parole à John, que nous avons la joie d'avoir ici parmi nous.
Bien, chers amis, nous sommes quelques-uns ici de la paroisse dans Paris B, de l'église réformée dans Paris B, à Tananarive, Madagascar. C'est devenu presque une habitude, puisque ça fait depuis plusieurs années, enfin depuis quelques années au moins, qu'une fois par an, on vient prier avec vous pour manifester les liens d'amitié et de fraternité entre notre paroisse à Madagascar et la paroisse de l'Oratoire du Louvre. Un certain nombre de partenariats ont été mis en place entre les deux paroisses, et nous sommes là pour concrétiser ce lien. Donc c'est une grande joie d'être ici avec vous. C'est un don de Dieu, et rendons grâce à Dieu pour ça. Peut-être que tout à l'heure, à l'occasion du repas, on aura la possibilité d'échanger sur les différentes activités qui ont été menées par les deux paroisses. Par ailleurs, contrairement à notre habitude, on ne chantera pas un cantique malgache aujourd'hui. Tout ça pour ne pas faire de la contre-publicité, parce qu'on souhaiterait que vous appréciez les chants de notre chorale, enfin de la chorale dans Paris B, qui est mise en vente donc sous forme de DVD, et qui se trouve à la gauche en sortant donc du temple tout à l'heure. Merci de votre attention, merci de votre accueil, et encore une fois, on vous transmet les amicales et fraternelles pensées du pasteur et de toute la paroisse dans Paris B.
Non, mais c'est nous qui sommes ravis de vous avoir parmi nous, comme ça, régulièrement, d'autant plus que nous vous avions adressé un appel à propos de Topaza, pour que puisse y avoir vraiment un contact, donc un suivi très fraternel, un peu maternel, des enfants de l'orphelinat qui nous tient tant à cœur à Tananarive. Et votre paroisse a vraiment bien répondu à cet appel. Enfin, on pourra demander à Claudine ce qu'elle en pense, mais je crois que vraiment c'est très bien d'avoir pu ainsi répondre sur cet appel fraternel. Alors j'aurais passé la parole aussi donc au groupe de lycéens, en fait, qui a quelque chose à nous proposer.
Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Alicia, je fais partie du groupe de jeunes qui a été créé il y a 4 ans par Bertrand Marchand, ici à l'Oratoire du Louvre, et en fait je suis venue vous présenter un livret que nous avons réalisé l'été dernier à l'occasion d'un camp que nous avons fait dans une ferme biologique en Auvergne. Donc en fait, ça partait d'une réflexion un peu générale sur notre monde et sur donc les grands enjeux de notre société, comme l'écologie ou les inégalités sociales. Et en fait, on a voulu voir un peu à quel point, en tant que jeunes, on pouvait... quelle vision du monde on pouvait avoir sans tomber dans une sorte d'idéalisme ou d'un angélisme, et non plus dans une sorte de pessimisme, parce qu'on s'est rendu compte en fait que peut-être on était très cynique à propos de, donc, des inégalités dans le monde par exemple. Donc voilà, c'est un livret avec des photos, des dessins, des poèmes qu'on a écrits, et ça nous aiderait en fait à financer notre camp. Donc il est mis en vente à la sortie à 4 €. Donc si vous pouvez passer même pour regarder, ça peut peut-être alimenter votre réflexion, parce qu'on a essayé de laisser quand même des pistes de réflexion, et que le lecteur puisse un peu voilà, réussir à imaginer des choses à partir de ce qu'on a réalisé. Donc voilà, il est au prix de 4 € et ce serait gentil de passer regarder. Merci.
Merci beaucoup, très sympa. À mon avis, ce n'est pas avec 4 € que vous allez partir à Acapulco, mais enfin bon. Donc, alors demain, il y a le groupe protestant des artistes, le GPA, appelé familièrement le GPA pour les intimes. Il y a le témoignage de Martine Stewart, qui est animatrice à la maison de retraite de Meudon, maison de retraite protestante, qui témoignera dans son action là-bas. Mercredi à 16h, il y a le groupe biblique pour confirmer. Jeudi 7 juin à 20h30, ici même, il y a le concert du chœur de l'oratoire, donc le Requiem de Verdi, excusez-moi du peu, par le chœur de l'oratoire. Alors, eux aussi ont quelque chose à vous proposer à la sortie, donc il y a des billets qui sont en vente à l'issue du culte. Dimanche, ici, il y aura donc le culte avec une prédication de mon cher collègue James Woody. Et maintenant, eh bien, c'est le moment de l'offrande. Nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. L'offrande est un moyen de vivre notre reconnaissance et de donner à l'Église les moyens pour qu'elle puisse, avec vous, annoncer l'Évangile en ce monde. En suivant du cœur ce psaume, nous prions. Ô Dieu, donne à tes enfants un cœur de chair, pour qu'ils agissent avec plus de justice, qu'ils fassent droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix, colline, portez-lui la justice. Que tes enfants fassent droit aux malheureux de leur peuple, qu'ils sauvent les pauvres gens, qu'ils chassent le malheur. En ces jours-là fleurira la justice. Il y aura une grande paix jusqu'à la fin des siècles. C'est par eux que Dieu délivrera le pauvre qui appelle, le malheureux sans secours. Car ils auront souci du faible, du petit, du pauvre dont ils sauvent la vie. Ils les rachèteront à l'oppression, à la violence. Oui, leur sang est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit comme un champ de blé, et que ses épis ondulent comme la forêt du Liban, que la ville devienne florissante comme l'herbe sur la terre, que le nom de ton Messie dure toujours sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays se réjouissent de l'Évangile. Béni soit l'Éternel notre Dieu, lui seul fait des merveilles, béni soit à jamais son nom glorieux. Toute la terre est remplie de sa gloire. Béni soit notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant la bénédiction qui vient de la part de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Demeure par ta grâce, oui, avec nous, Dieu Sauveur. Amen.